L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
On va poursuivre dans cette prédication sur cette série concernant la guérison divine, mais on veut juste ramener toujours les choses, peu importe les choses qu'on peut apprendre, on va toujours dire « Gloire à Dieu, c'est toi notre source, Seigneur ». Amen. Père éternel, on vient devant toi. On veut te louer ce matin. On veut t'adorer, Seigneur Dieu. Alléluia, tu es tellement grand, tellement merveilleux, un Dieu tout-puissant. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés ici et nous te remercions pour ton onction qu'on ressent déjà dans cette maison. Merci, Seigneur Dieu. Merci, Esprit de Dieu, pour ton cœur rempli de compassion pour chaque personne ici. Et au-delà de cette maison, on te remercie pour les gens qui nous suivent en ce moment à la radio, sur Internet et à la télévision. On te remercie, Seigneur Dieu, parce que tu es à l'œuvre en ce moment pour restaurer, pour guérir, au nom de Jésus. Amen. Amen. Venez avec moi dans Proverbes chapitre 4. On prend ce passage des Écritures à chaque école de guérison jusqu'à présent. On établit la raison pourquoi nous étudions ce sujet. Et puis la semaine prochaine, on va avoir la bénédiction d'avoir un orateur qui a un ministère puissant de guérison. Mais vous savez, des fois, on peut se poser la question, mais quand on voit les choses qui se passent dans le monde, on voit toutes sortes de choses dérangeantes au niveau de la température, le climat dans lequel nous vivons. On sait que le Seigneur Jésus va bientôt chercher son Église, il va revenir. Et puis, on peut se poser la question, mais pourquoi étudier la guérison? Est-ce que c'est vraiment important? Mais c'est important, savez-vous pourquoi? Parce que, justement, si le Seigneur Jésus s'en vient chercher son Église, bien, il veut chercher une grande Église glorieuse. Amen. Et puis, il veut qu'on puisse rajouter à cette Église. Donc, comme nous sommes là, comme nous aimons les gens, nous pouvons voir des gens qui vont se rajouter à l'Église de Dieu. Comme nous prions pour les malades, des gens inconvertis qui reçoivent leur guérison, bien, gloire à Dieu, ils peuvent se rajouter et faire partie de l'épouse de Christ, eux aussi. Et quand la trompette va sonner, on va avoir une plus grande famille qui va monter. Amen. Donc, c'est important. On veut aimer les gens et puis on veut travailler dans son royaume jusqu'à la fin. Amen. Donc, gloire à Dieu pour ça. Donc, aujourd'hui, on va aller dans Proverbes chapitre 4, commençant au verset 20. Il est écrit, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. » Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Gloire à Dieu. Je vais relire. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Les paroles qui comptent, c'est les paroles qui viennent du Seigneur Jésus. Amen. Prête l'oreille à mes discours. Ça veut dire qu'on doit lui donner notre temps pour entendre sa parole. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Le diable peut essayer de voler cette parole, mais vous avez la responsabilité, vous devez protéger votre cœur pour garder la semence dans votre cœur. Amen. Pourquoi? Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Si vous trouvez la parole de Dieu, vous découvrez votre héritage en Christ. C'est votre vie, c'est pour votre vie, c'est la santé pour tout leur corps. Donc, si vous croyez la parole de Dieu, vous la déposez dans vos cœurs, et puis la parole de Dieu nous dit que la bouche parle de l'abondance du cœur. Quand vous déclarez la parole de Dieu, bien vous allez récolter la santé dans vos corps. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc, je veux remplir mon cœur de sa parole, et puis je vais marcher dans la santé divine. Gloire à Dieu. Amen. Vous croyez ça ce matin? Amen. On a vu plusieurs choses pendant cette série, parce que je sais qu'il y a toutes sortes de traditions qui règnent dans le corps de Christ, où on a accusé Dieu faussement. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va regarder à certains passages dans l'Ancien Testament où nous lisons que Dieu a frappé les gens de maladies, parce que c'est sûr et certain que si nous lisons le Nouveau Testament, on peut avoir une image de Dieu. Et là, on lit l'Ancien Testament et puis finalement, on peut être ébranlé dans notre foi. Et puis Dieu ne nous appelle pas à avoir peur d'aucun passage des Écritures. Amen. On doit être capable de lire toute la Bible et comprendre toute la Bible. Amen. Parce que le Dieu du Nouveau Testament, c'est le même Dieu de l'Ancien Testament. Amen. C'est le même Dieu. Nous servons le même Dieu. Mais on doit comprendre certaines choses concernant l'Ancien Testament pour marcher aujourd'hui dans la guérison divine. Et ce qu'on a vu pendant plusieurs semaines, on a fait un certain triage des doctrines, des traditions des hommes qui circulent dans le corps de Christ pour faire du ménage justement, pour croire la parole de Dieu. Une chose certaine, vous pouvez croire tout simplement ce que Dieu a dit, qu'il guérit toutes nos maladies et puis c'est suffisant pour vous. Amen, vous dire, c'est écrit, je crois ça. Mais en même temps, si vous avez des questions qui vous troublent, vous êtes là et vous dites, oui, mais il y a ce passage-là et ça me dérange. Et à cause de ce passage-là ou de cette tradition que j'entends, bien, c'est difficile pour moi de relâcher ma foi et vraiment croire la parole de Dieu dans un texte quand je vois d'autres choses ailleurs. En passant, la semaine passée, je vous ai encouragé à lire le livre « Christ the Healer » de F.F. Bosworth. Donc, c'est la guérison divine par la foi en Jésus-Christ que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site de l'église evqmedia.com. Parce que c'est sûr et certain que dans cette série, ça va être impossible pour moi de répondre à chaque question que vous pouvez avoir. Donc, c'est important d'aller à la maison et étudier pour vous-même. Vous devez prendre du temps et étudier. Si vous avez des questions, les réponses sont là. Amen. Mais ce n'est pas dans une seule réunion ou même dans une série qu'on va tout voir. Et c'est pour cette raison également, j'aimerais vous encourager à étudier la série « École de guérison » en 2009 que j'ai faite, parce que je décortique plusieurs choses qu'on n'a pas vues dans cette école. Mais gloire à Dieu, c'est déjà enregistré. Donc, vous pouvez écouter « École de guérison 2009 »,« École de guérison 2015 ». Vous pouvez mettre tout ça ensemble et puis écouter également « L'autorité du croyant ». Et puis, vous pouvez vraiment bâtir votre bateau de foi pour surmonter toute épreuve ou toute attaque de l'ennemi. Amen. Si vous dites « Oui, mais ça va me prendre des heures d'étude », oui, gloire à Dieu, mais c'est préférable avoir des heures d'études qu'avoir des heures de traitement. Amen. J'aime mieux ça, prendre des heures et régulièrement écouter la parole de Dieu pour bâtir mon bateau de foi. Et quand l'ennemi attaque avec la maladie, je sais comment résister parce que je connais la parole de Dieu. Amen. Alléluia, gloire à Dieu, je suis content de vous dire ça parce que c'est la volonté de Dieu que vous soyez en santé. Il désire que vous puissiez prospérer à tous les niveaux, comme prospère l'état de votre âme. Maintenant, venez avec moi dans 1 Jean chapitre 1. 1 Jean 1, et on va aller au verset 5. Aujourd'hui, on va être réconcilié avec le Dieu de l'Ancien Testament. Amen. Êtes-vous d'accord? Amen. On va enlever des doutes, de la confusion qui peut régner. Alléluia, Dieu est bon. Et puis, aujourd'hui, on va vraiment établir cette vérité dans nos cœurs que Dieu est vraiment bon. Amen. Dieu est vraiment bon. Il faut croire que Dieu est vraiment bon. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. 1 Jean chapitre 1, 5e verset, il est écrit, « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. » Amen. Dans notre Dieu, il n'y a pas de ténèbres. Amen. Croyez-vous ça? Dieu est lumière, il n'y a en lui point de ténèbres. Et j'ai fait une petite recherche sur le mot ténèbres. Le mot ténèbres en grec, c'est le mot skosia, qui veut dire, qui peut être traduit comme étant ténèbres ou obscurité provenant d'un manque de lumière ou la méchanceté. Donc, en Dieu, on ne retrouve pas de méchanceté non plus. Donc, Dieu est lumière et Dieu n'est pas cruel, Dieu n'est pas méchant. Amen. Donc, Dieu est bon. Et puis, je veux vraiment vous encourager. Tout au long de cette série, on vous a encouragé de croire que Dieu était bon. Mais quand vous lisez votre Bible à la maison, si vous lisez votre Bible et puis vous voyez un verset qui vous trouble, vous êtes là, bien, n'oubliez pas de mettre vos lunettes du psaume 145, verset 8. C'est quoi ça, le psaume 145, verset 8? Ça nous dit que Dieu est bon. Rappelez-vous toujours que Dieu est bon. Donc, vous lisez un passage et puis vous dites, « Oh, Dieu a de l'air méchant ici. » Remettez vos lunettes de la bonté de Dieu. Il y a des choses que vous ne comprenez pas parfois en lisant comme ça. Peut-être que vous ne comprenez pas certains contextes où il y a des détails que vous manquez ou peut-être la traduction n'est pas toujours parfaite. Amen. Mais si vous gardez toujours vos lunettes que mon Dieu est bon, mon Dieu est toujours juste, mon Dieu ne marche pas dans les ténèbres et mon Dieu n'est pas méchant, donc je peux toujours être rassuré. Amen. Donc, lisez votre Bible sachant que Dieu est toujours bon. Et puis, vous verrez aujourd'hui, on va voir certaines choses qui vont vous aider. Donc, Dieu est lumière, Dieu est bon. Et dans Jacques chapitre 1 et le verset 17, il est écrit, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Je sens la présence de Dieu, juste en lisant ça. Écoutez bien, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu veut que je vous dise aujourd'hui qu'il n'a pas changé. Amen. Dieu n'a pas changé. S'il était bon dans le psaume 145 et le verset 8, il est encore bon aujourd'hui. Dieu est bon. Il ne changera pas. Dieu ne changera jamais. Il va toujours demeurer bon. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia. Certains vont dire, ben Dieu m'a donné un cancer. Impossible. Impossible. Dieu ne peut pas vous donner un cancer. Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu n'a pas le cancer. Dieu ne peut pas vous donner le cancer parce que Dieu n'a pas le cancer. Alléluia! Vous savez, si vous demandez à quelqu'un, donne-moi 20$, bien la personne peut juste vous donner le 20$ si la personne possède 20$, n'est-ce pas? Si vous dites, bien, je t'en supplie, donne-moi 20$, j'ai juste 10$ dans mes poches. Non, je veux 20. Vous comprenez? Mais vous dites, certaines fois, des fois, on a entendu les chrétiens dire, bien, Dieu m'a donné un cancer. Mais pour que Dieu vous donne un cancer, il doit avoir le cancer pour vous le donner. Vous comprenez ça? Dieu n'a pas de cancer au ciel. Il n'y a pas de département de maladie au ciel où Dieu envoie des petits cancers, des maladies, peu importe ce que vous voulez, Dieu ne l'a pas. Amen. Amen. Alléluia. Parce que Dieu est bon et dans son royaume, c'est la lumière, il n'y a pas de ténèbres au ciel. Dans son royaume, c'est la lumière, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté. Amen. Dieu n'a pas de cancer à vous donner. Mais devinez qui vous donne le cancer? Le diable qui vient vous voler, vous égorger et vous détruire. Mais Jésus est venu pour vous donner la vie, et la vie en abondance. La vie, ce n'est pas la mort. Amen? Amen? Amen. Jésus est venu vous donner la vie. Il a paru afin de détruire les œuvres du diable, pas pour y participer. Amen? Quand Jésus a ressuscité Lazare, certains ont dit, bien ça, c'était pour la gloire de Dieu. La mort ou la maladie était pour la gloire de Dieu. C'est très dangereux de dire ça si on ne comprend pas bien les choses, parce que ce qu'on comprend, c'est que la résurrection était pour la gloire de Dieu, en fait. La guérison et la résurrection étaient pour la gloire de Dieu. On a vu ça la semaine passée. Mais imaginez, ça voudrait dire que quand Jésus a ressuscité Lazare d'entre les morts, il aurait contrarié son Père. Il aurait contrarié la volonté divine en ressuscitant Lazare. Si c'était la volonté de Dieu, qu'il soit malade et qu'il meure. Amen. Donc, on sait que c'était qui voulait qu'il soit mort et qu'il soit malade jusqu'à la mort? C'était le diable. C'est le diable qui vient voler, égorger et détruire. Alléluia. Donc, Dieu est bon. Et puis, si vous dites, c'est ça, Dieu m'a donné un cancer, bien, repentez-vous et dites, c'est le diable qui me l'a donné, mais au nom de Jésus, je m'en débarrasse. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Bon, êtes-vous prêts? On va plonger dans la parole de Dieu. Venez avec moi dans Exode chapitre 11. Et on va lire des passages qui vont peut-être vous troubler aujourd'hui, mais après ça, vous ne serez plus troublés, vous allez toujours être encouragés. Alléluia! On va affronter certaines vérités de la parole de Dieu, on va affronter certains passages, et puis on va vraiment être heureux de connaître notre bon Dieu. Amen! Alléluia! Exode 11, versets 4 à 5, il est écrit, ici c'est concernant la dixième plaie en Égypte. Moïse dit, « Ainsi parle l'Éternel vers le milieu de la nuit, « Je passerai au travers de l'Égypte et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte. » Donc, c'est Dieu qui parlait, il dit, « Je passerai au travers de l'Égypte et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte. » Puis déjà là, on vient de dire que Dieu était bon, et puis on voit ici un texte dans l'Ancien Testament où quand Dieu apparaîtrait pour passer dans le pays, les premiers-nés décéderaient. On dit, « Oh, là, j'ai un problème en lisant ma Bible, là. » Combien d'entre vous, vous avez déjà été confus en lisant votre Bible, en lisant ça, des passages comme ça? Vous avez lu ça, puis vous dites, « Oui, mais le pasteur a dit que Dieu est bon, mais là, je lis ça, on dirait il n'est pas trop bon, là, dans ce texte-là. » Mais avez-vous déjà eu cette question-là? Mais gloire à Dieu, vous allez être libérés aujourd'hui. N'est-ce pas merveilleux de savoir ça? Alléluia! Quand la lumière de Dieu arrive, gloire à Dieu, ça chasse les ténèbres. Alléluia! Oh, gloire à Dieu! Exode 12, 12 maintenant. Venez avec moi. Exode 12, 12. Cette nuit-là, « Je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. » Bon, on vient de voir ça, j'exercerai des jugements, et puis qu'est-ce qui va se passer? « Je frapperai tous les premiers-nés. » Wow! C'est quelque chose, ça, lire ça, n'est-ce pas? Bon, on a dit, on garde nos lunettes du psaume 145, verset 8, n'est-ce pas? Amen. Je sais, hier, comme je priais pour cette prédication, le Seigneur me disait, dites-leur, il y a des choses qu'ils ne comprennent pas, il y a des choses qu'ils vont comprendre. Mais il y a toujours des choses en arrière-plan, des choses qu'on ne voit pas, que Dieu peut nous révéler ou ne pas nous révéler, mais on doit toujours comprendre que Dieu est bon. Il y a toujours des choses en arrière-plan, des situations que vous ne connaissez pas en lisant votre Bible. Et si vous manquez de respect envers la parole de Dieu, vous pouvez juger la parole de Dieu et mépriser la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont fait ça justement, qui ont méprisé la parole de Dieu. Ils disent, ben là, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est un Dieu comme ci, comme ça. Mais quand on se penche juste sur un texte en particulier, Dieu commence à nous révéler des choses. Il commence à développer, déballer des choses. Et puis on est là, on arrive et on comprend, oh, finalement, Dieu est juste. Dieu est juste et Dieu est bon. Là, je comprends et là, je peux dire Dieu est bon. Mais vous savez, vous devriez être capable de dire que Dieu est bon, même si vous ne comprenez pas. Amen. Hallelujah. Parce qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas qui arrivent derrière la scène, qui ne sont pas évidentes. Mais si vous croyez toujours que Dieu est bon, même si vous ne comprenez pas certains passages, donnez-vous le temps. Peut-être l'Esprit de Dieu va vous révéler des choses. Mais même si vous ne comprenez pas, demeurez toujours avec la même conviction, mon Dieu est bon. Mais là, ce qu'on va faire, parce qu'on a plusieurs versets qu'on pourrait voir ensemble. On en prend un ce matin. On va l'isoler, on va découvrir des vérités. Et puis, vous allez vraiment être heureux, je crois, de comprendre ces choses-là. Il y a un théologien, Dr. Robert Young, qui a traduit la Bible. Vous pouvez lire la Bible, ça s'appelle Young's Literal Translation. Une Bible qui a vraiment été traduite d'une façon littérale, que vous pouvez avoir sur Internet, Young's Literal Translation. Il a écrit un livre qui s'appelle « Hints and Helps to Bible Interpretation », donc des choses qui peuvent vous aider dans l'interprétation de la Bible. Et puis, je vais juste vous lire une petite citation provenant de ce livre-là. Ça nous dit « La forme causale qui indique une responsabilité du verbe hébreu trouvé dans l'Ancien Testament est souvent une forme de verbe permissive dans le texte original. Plusieurs textes attribués à Dieu dans l'Ancien Testament pourraient être lus comme étant permissifs. » Comprenez-vous ce que je viens de dire? Donc, quand vous lisez votre Bible dans l'Ancien Testament et quand c'était écrit, vous comprenez, le peuple juif croyait que Dieu était souverain et puis tout ce qui se produisait, c'était toujours vu comme étant, comme si Dieu était directement responsable de chaque événement. Et puis, c'était écrit comme ça dans nos traductions, c'est toujours écrit comme si Dieu est l'auteur, comme si c'est lui qui fait toutes choses. Mais en fait, quand on étudie en hébreu, nous retrouvons que plusieurs textes, en fait, le verbe qui a été employé dans nos traductions, c'est un verbe plutôt permissif et pas comme si Dieu était responsable de la chose. Vous me suivez? OK. Donc, ça, c'est Dr. Robert Young, un traducteur de la Bible, qui l'affirme. Et puis, il y a plusieurs sources également qui nous parlent de ça. Bon, ça fait qu'au moins, on a ça. Donc, quand vous lisez votre Bible en français, déjà, vous pouvez lire des choses et puis vous pouvez même remettre en question et vous poser la question, est-ce que c'est vraiment ça qu'on doit comprendre? Rappelez-vous aussi que dans l'Ancien Testament, on ne parle pratiquement pas du diable. On entend plusieurs choses concernant le diable, Satan, dans le Nouveau Testament. Mais dans l'Ancien Testament, on entend peut-être quelques passages, mais ce n'est pas très, très, très fréquent. OK? Donc, on va arriver à comprendre des choses aujourd'hui. Une chose super importante, on doit comprendre que derrière la scène, il y a des lois spirituelles en opération, même lorsque nous lisons l'Ancien Testament. Des lois spirituelles. OK? Donc, si on comprend que notre Dieu est bon, on comprend également que Dieu a permis certaines choses dans l'Ancien Testament. Il a permis des choses parce que même si Dieu est souverain, dans sa souveraineté, Dieu a choisi de déléguer de l'autorité à l'être humain. Vous me suivez? C'est important ce matin, je veux vraiment vous encourager, suivez-moi. N'allez pas au resto dans votre tête parce que vous allez manquer des choses. Okay? Il y a des gens qui disent, ben, Dieu est au contrôle de tout. Ça sonne bien. Et puis, il y a plusieurs personnes qui vont le dire. Et à chaque fois que j'entends ça, bien, Dieu est au contrôle. Faites attention. Dieu est au contrôle dans le sens que Dieu est souverain, certainement, mais Dieu a choisi de déléguer à l'être humain de l'autorité. Donc, celui qui va violer une jeune fille et vous dire Dieu est au contrôle et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, je m'excuse, Dieu n'était pas au contrôle de ce crime. Amen? Vous me suivez? Dieu n'était pas au contrôle. Ne dites pas Dieu est au contrôle de tout, parce que nous ne sommes pas des robots. Amen. Donc, l'être humain peut faire des choses, des mauvais coups, des crimes, des péchés, et Dieu n'est pas responsable de nos péchés. Amen? Amen. Gloire à Dieu. Okay. Dieu n'est pas responsable. Dieu est au contrôle dans le sens qu'il est souverain. Il a choisi de donner à l'être humain de l'autorité. Et dans cette autorité, on peut faire soit le bien ou le mal. Amen. Donc, toutes les choses qui peuvent vous arriver, ce n'est pas nécessairement la main de Dieu. Amen. 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 Gloire à Dieu. Si on croit que Dieu est au contrôle en toutes choses comme ça, d'une façon gratuite, là, ça veut dire que l'ennemi vient vous attaquer avec la maladie, mais vous allez dire, ben, Dieu l'a permis, Dieu est au contrôle, et puis finalement, je vais me reposer là-dedans, et puis je n'exercerai pas mon autorité spirituelle contre cette chose-là, parce que ben, Dieu est au contrôle, et puis si Dieu l'a permis, Dieu le voulait. Il y a plusieurs choses que Dieu permet que Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas la mort, Dieu ne veut pas la guerre, Dieu ne veut pas le péché, mais Dieu le permet. Pourquoi? Parce que nous sommes en autorité sur cette terre en ce moment. Vous pouvez lire Genèse chapitre 1, le verset 26-27, concernant l'autorité du croyant, et vous pouvez également écouter la série sur ce même sujet. Venez avec moi dans Galates chapitre 6 maintenant, versets 7 à 8. Aujourd'hui, on reçoit des choses où le Seigneur va vous libérer. Gloire à Dieu. Et puis, vous allez comprendre des choses merveilleuses. Une des choses importantes qu'on doit comprendre concernant les passages qu'on peut lire dans l'Ancien Testament, c'est la loi des semences et des récoltes. La loi des semences et des récoltes. Donc, on va aller ensemble dans Galates, chapitre 6, et on va aller au verset 7. Je vais vous lire dans Louis II. Galates 6, verset 7, ça dit, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Amen. Donc, vous comprenez, il y a une loi spirituelle en opération dans notre monde. Tout ce que vous allez faire dans votre vie, tout ce que vous allez déclarer de votre bouche, c'est une semence spirituelle, même si vous ne croyez pas là-dedans. Il y a des gens qui ne croient pas dans la loi des semences et des récoltes, ou même dans la confession de la parole de Dieu, mais que vous y croyez ou non, c'est une réalité. Vos paroles sont des contenants de puissance pour votre vie. Vous pouvez vous bénir avec votre langue ou vous pouvez vous maudire. Moi, j'ai choisi de me bénir avec mes paroles. Amen. Bénir mes enfants, bénir notre maison, bénir l'Église, bénir avec nos paroles. Mais ça nous dit, « Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème, celui qui fait des semences dans la chair, pour la chair, moissonnera de la chair la corruption. » On sait que la maladie fait partie de la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Vous me suivez? Amen. OK. Une autre chose que vous devez comprendre, c'est la loi du juste juge. Dieu est un juste juge. Et dans Genèse 18, verset 25, il est écrit, « Le juge de toute la terre ne fera-t-il pas ce qui est droit? » Donc, le juste juge, Dieu est juste, Dieu est le juge de toute la terre. OK? Donc, même si Dieu nous a donné de l'autorité, même si Dieu est souverain, on comprend, il a donné de l'autorité à l'être humain, Dieu demeure le juge. Amen? Il demeure le juge, mais heureusement, gloire à Dieu, nous ne sommes plus sous le jugement de Dieu si nous sommes en Christ. Amen? Il n'y a plus de jugement pour nous si nous sommes en Christ. Amen. Hallelujah. Mais là, vous lisez Deutéronome 28. Certains d'entre vous, vous avez peut-être lu Deutéronome 28 parce qu'on vous a parlé de la bénédiction et de la malédiction. Vous lisez les premiers 15 versets, je crois, sur la bénédiction. Vous verrez, si vous écoutez la parole de Dieu, Dieu dit, si vous êtes obéissant, vous serez béni. Vous serez béni partout, finalement. Vous serez béni dans votre maison, dans vos affaires, dans votre corps. Vous serez béni. OK? Si on est obéissant selon la loi de Deutéronome 28. Et là, on lit les autres versets, la conclusion du même chapitre. Mais si vous êtes désobéissant, voici ce qui vous arrivera. Je vous frapperai de ceci, de cela. La maladie va venir. Ça va être horrible. Bon, vous lisez ça, mais vous dites, moi, mais Dieu est bon. Comment ça, je lis ça? Je peux vous expliquer comme ceci. Si j'avertis mes enfants, dehors, il pleut en ce moment. Si vous ne prenez pas de parapluie, vous allez être mouillé, détrempé. OK? Est-ce que je suis celui qui est là pour arroser mes enfants quand ils vont sous la pluie?
Non.
Non? Mais je leur dis, si tu m'écoutes, là, mon enfant, tu vas aller dehors, il pleut en ce moment. Il pleut en ce moment, mais je te dis, je juge de la situation. J'ai ouvert les rideaux. J'ai ouvert les rideaux chez moi et je vois que la pluie descend. Il y a même une tornade qui arrive. Et j'annonce à mon enfant, je juge que quelque chose de terrible dehors. Donc, si tu sors dehors de la maison et tu ne prends pas ton parapluie, tu risques d'être humide. Amen. Comprenez? On a lu des passages comme ça dans l'Ancien Testament où Dieu, le juge, déclare des choses. Si vous êtes obéissant, bien, ça ne vous arrivera pas, vous serez béni. Je vais vous bénir. Mais dans le monde, la malédiction règne en ce moment. Et si vous ne m'écoutez pas, la malédiction va vous atteindre. Quand vous lisez votre Bible, comprenez ceci. Dieu est en train de juger et déclarer des choses qui sont véritables, mais Dieu n'est pas l'auteur de la malédiction. Amen. Dieu n'est pas l'auteur de la malédiction. Amen. Si je dis à mon enfant, si tu cours dans le trafic, dans la circulation, tu vas te faire frapper. Bon, ça l'arrive. Est-ce que quelqu'un va arriver à la maison et dire « Hey, t'as frappé ton enfant? » Non, je n'ai pas frappé mon enfant, mais je l'avais averti, puis il n'a pas écouté, puis malheureusement, il s'est fait frapper. Vous comprenez? Donc, Dieu n'est pas coupable, Dieu n'est jamais coupable lorsqu'on voit quelque chose de destructeur. Dans Ésaïe 55, verset 11, c'est dit « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Tout ce que Dieu dit, ça arrive. Et dans 1 Corinthiens 11, verset 31, je vous donne un texte important ici. 1 Corinthiens 11, verset 31. Il y a la malédiction qui règne dans le monde. Et Dieu juge. Dieu juge. Il juge selon un juste décret. Il déclare, le péché, c'est le péché. La sainteté, c'est la sainteté. Amen. Ce que Dieu dit, c'est toujours vrai. Amen. Si on est obéissant et on marche avec Dieu, nous sommes bénis. Si on est désobéissant, on risque d'être maudit. Est-ce que c'est Dieu qui nous maudit? Non, la malédiction est là dans le monde, comme la pluie acide, admettons, qui vous tomberait dessus. Puis c'est comme ça dans le monde. Et Dieu nous dit, dans 1 Corinthiens 11, verset 31, « Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. » Avez-vous remarqué ça? Jusqu'à présent, si vous n'avez rien compris et vous comprenez juste ceci, si je me juge moi-même, je n'attends pas que Dieu me juge un jour. Et puis, admettons, vous êtes là, puis vous dites, « Bien, moi, je suis un rebelle, je ne veux rien savoir de Dieu. À la fin de ma vie, Dieu pourra me juger. » Bien, si vous êtes en dehors de Christ, vous serez jugé. Et oui, vous allez être perdu éternellement. Mais si aujourd'hui, vous décidez, « Je vais me juger moi-même. » Quand je commets un péché, tout de suite, je vais me juger moi-même. Et je vais me repentir et je vais me détourner de mes péchés. Ça nous dit, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Est-ce que c'est dans votre Bible? Le jugement ne vient pas sur vous si vous jugez votre propre cœur. Amen. Alléluia. OK, vous me suivez? Vous n'êtes pas trop mélangé là, jusqu'à présent? Donc, la loi des semences et des récoltes, vous devez comprendre ça si on veut comprendre l'Ancien Testament. Vous me suivez? Donc, la loi des semences et des récoltes, c'est une loi spirituelle qui existe, qui existait et qui existe encore aujourd'hui. Amen. Et la loi du juste juge, Dieu demeure un juge. Amen. Mais gloire à Dieu, si nous sommes en Christ et si on se juge nous-mêmes, on ne sera pas jugé. Amen. Gloire à Dieu. Bon, la malédiction a toujours une cause. Il y a toujours une racine, une raison pourquoi il y a une malédiction qui est là. Venez avec moi dans Proverbes 26, verset 2. Aujourd'hui, c'est de l'enseignement important parce que comme on est enseigné ici aujourd'hui concernant la malédiction, on n'aime pas ça entendre parler de la malédiction, mais si on peut découvrir les lois spirituelles qui gèrent ce monde-là, on peut éviter la malédiction. Donc, c'est profitable. Amen. Amen. Dans Proverbes 26, verset 2, il est écrit, « Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. » La malédiction sans cause n'a point d'effet. Je relis, « Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. » En d'autres mots, quand la malédiction se manifeste, il y a toujours une cause. Il y a toujours, toujours une raison. Quand la malédiction se manifeste, il va toujours y avoir une cause à quelque part, et puis la cause, ce n'est jamais Dieu. Dieu est toujours innocent. Amen. Dieu est toujours bon. Dieu n'est pas l'auteur de la mort. Dieu n'est pas l'auteur de la maladie, ni du péché. Il y a toujours une cause. Si vous pouvez juste apprendre ça aujourd'hui, dites, ben, quand il y a une malédiction, là, au lieu de penser que c'est Dieu qui fait ces choses-là, comprenez, il y a une cause. peut-être je connais cette cause et peut-être je ne la connais pas, mais ce que je veux faire, c'est garder toujours mes lunettes de la bonté de Dieu pour m'assurer que je ne puisse pas être rebelle contre Dieu ou l'accuser faussement. Il y a des choses que je ne comprends pas, mais aujourd'hui, gloire à Dieu, j'apprends à comprendre certaines choses. On va revenir maintenant sur l'histoire de la 10e plaie en Égypte. Vous vous rappelez, on a lu le texte où Dieu a dit « Je vais frapper les Égyptiens ou les premiers-nés ». Sachez ceci, que tous ceux qui voulaient mettre du sang sur leur linteau de porte étaient protégés. En fait, l'invitation était lancée à tous. Vous pouvez être sous le sang et protégés si vous souhaitez. Donc déjà là, on sait, si les gens pouvaient être protégés et échapper à cette malédiction qui arrivait. Là, on va revenir. Exode 12, verset 23, ça dit « Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. » Déjà là, on vient de voir une chose de plus. Dieu, l'Éternel, il dit « Ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons. » Le moment qu'il voit le sang, il ne permettra pas au destructeur. Mais c'est qui le destructeur? Est-ce que c'est Dieu, pensez-vous, le destructeur? Dieu n'est pas le destructeur. OK? Dieu n'est pas le destructeur. Mais ici, dans ce texte-là qu'on a pris pour dire, bien, Dieu est coupable, tu vois, là, il va frapper l'Égypte. Oui, mais savez-vous comment Dieu frappe? Il juge par un décret. Il dit, il y a le péché dans le camp, et puis ça l'arrive. Mais remarquez une chose. Quand on lit dans l'Ancien Testament que Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela, Dieu l'a fait par un décret, dans le sens, il a jugé, cette chose était impure, cette chose était dans les ténèbres, je juge et je déclare cette chose-là. Et par sa parole, là, sa main est enlevée et cette protection quitte, et là, la porte est ouverte pour que l'ennemi vienne et qu'il fasse les mauvais coups. Parce que Dieu n'est jamais, jamais coupable. Ici, il dit, il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos mains. Donc, l'Éternel passera par-dessus la porte. Devinez qu'est-ce qu'il va faire? Il va empêcher le destructeur d'entrer dans la porte, d'entrer dans votre demeure. Je vais le relire. Ça dit, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte. Il ne permettra pas au destructeur d'entrer dans vos maisons pour frapper. OK, là vous dites, oui, mais ça dit quand même que l'Éternel va passer pour frapper. Oui, on sait qu'il va permettre à ce que ce destructeur-là passe en Égypte. Il va permettre ceci, OK? Mais là, reculons 80 ans auparavant. Parce que là, vous lisez ça comme ça, puis on dit, ah bon, ça dit ça, qu'est-ce qu'on fait avec? Comprenez, il y a toujours une cause. On vient de voir la loi des semences et des récoltes et qu'une malédiction a toujours une cause. Amen? Vous vous rappelez de ça? Vous me suivez? Il y a toujours une cause, il y a toujours une raison. Des fois, on lit un texte, on ne voit pas tout de suite, ce n'est pas tout expliqué d'un seul coup. Il faut s'arrêter et étudier un peu. T'sais, OK, mais pourquoi? Est-ce qu'il y avait une cause, là? Est-ce qu'il y a une raison pourquoi Dieu a permis cette chose-là? Mon bon Dieu, pourquoi que Dieu aurait permis une chose aussi terrible que la mort des nouveaux-nés, la 10e plaie? Mon Dieu, pourquoi Dieu a permis ça? Dans Exode, chapitre 1 et le verset 16, nous avons la réponse. Ça dit, le Pharaon leur dit aux femmes, aux Égyptiennes, « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. » Remarquez ici, l'idée du Pharaon. Le Pharaon voyait le peuple de Dieu, les Juifs, qui commençaient à augmenter en Égypte et puis commençaient à avoir peur de vivre une révolte. Vous connaissez l'histoire des Juifs en esclavage. Et puis là, le Pharaon a décidé « On va tuer tous les premiers-nés. » Et puis, on va calmer l'augmentation de la population. Donc, le Pharaon avait semé la mort. Vous vous rappelez de cette histoire-là? Vous avez vu le film d'Hollywood, peut-être, si vous ne l'avez pas lu dans votre Bible. Donc, la mort du premier-né, c'était l'idée de Dieu ou du Pharaon? C'est l'idée du Pharaon. Dans Exode 1, verset 22, « Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve, vous allez noyer là, les petits-enfants, tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. » Remarquez encore une fois ici, c'est dit, vous jetterez dans le fleuve. Avez-vous lu l'histoire où les soldats, l'armée du Pharaon a été noyée dans la mer Rouge? Vous vous rappelez de ça? Rappelez-vous qu'il y avait une loi en opération. Vous noyez des petits bébés, mais devinez qu'est-ce qui se passe aux méchants quand Dieu est tanné de voir ses enfants se faire abuser par les esprits méchants dans les lieux célestes. Quand la coupe de la grâce de Dieu est arrivée à son maximum, il enlève sa main et puis là, la récolte arrive. Et là, c'est pour ça, on voit Dieu a délivré son peuple et puis a laissé l'eau venir prendre l'armée des Égyptiens. Voyez-vous, il y a des choses qui se passent en arrière-plan qu'on ne voit pas, mais il y a un destructeur et il y a celui qui nous bénit, Dieu. Dieu enlève sa main et il laisse la récolte des semences semées. Il permet à ces choses-là d'arriver. Mais là, dans le Nouveau Testament, nous comprenons des choses aussi, que là, à cause de Christ à la croix, nous sommes protégés du jugement. Non seulement ça, nous avons reçu l'autorité sur les esprits méchants et nous pouvons dominer sur cette terre. Et commander au nom de Jésus, cette maladie ne frappera pas ma maison. Le destructeur n'entrera pas dans ma demeure. Au nom de Jésus. On a de l'autorité. Si on ne connaît pas notre autorité et si on s'imagine que Dieu est celui qui frappe par le cancer ou tout ce que vous voulez, bien là, on peut accepter tout ça comme venant de Dieu. OK, gloire à Dieu. Bon, on a parlé juste rapidement de l'Égypte. Peut-être aujourd'hui, vous êtes là, OK, je commence à comprendre des choses. Il y a des lois en opération, c'est super. Peut-être vous avez entendu parler de Job. Vous avez entendu parler de Job? Celui qui a beaucoup souffert, qui a perdu ses enfants. Je l'ai mentionné souvent dans des prédications, mais pour l'école de guérison, on va revenir rapidement sur ce personnage-là. Vous pouvez venir avec moi dans Job, chapitre 2 et le verset 7. On a dit, Dieu a frappé Job de toutes sortes de maladies. Dieu est l'auteur des horreurs qu'il a vécues. Dans Job 2, 7, c'est dit, « Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère. » Qui a frappé Job? Ça dit Satan. « Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. » Mais pourtant, souvent, on va avoir prêché que c'était Dieu qui était l'auteur des problèmes de Job. En fait, même les amis de Job, il y avait des amis assez décourageants, ses amis étaient là pour toujours lui dire, « C'est de ta faute, finalement, si tu as fait quelque chose et Dieu te fait du mal. » Mais la Bible dit, c'est Satan qui a frappé Job d'un ulcère. Et là, est-ce qu'il y avait une cause possible qui a permis à Satan de venir dans sa vie pour le détruire? Est-ce qu'il y avait une cause possible? Parce qu'on sait que les malédictions, il y a toujours une cause. Quelle est la cause? Dans Job 3, 25, « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Donc, Job a lui-même ouvert la porte à l'ennemi. La crainte est entrée dans sa vie. Et puis, à cause de cette présence de la crainte, bien, c'était une porte ouverte à l'ennemi. Et puis, finalement, on comprend. Ici, c'était le cœur du diable. Il voulait le détruire. OK, on dit, c'est ça. OK, mais c'est terrible, ça. On peut ouvrir des portes à Satan. Oui, c'est terrible si on ouvre des portes à Satan. Mais on voit la conclusion de la vie de Job. C'était quoi le cœur de Dieu pour lui? Quel était le cœur de Dieu pour lui? La guérison totale. La guérison totale et la restauration totale. Mais Job, au travers de son histoire, vous êtes là, vous lisez le texte, on voit, il ne dit pas toujours des choses qui sont vraies. Il dit, Dieu a donné, Dieu reprend. Il y a certaines églises qui vont même chanter ce passage-là. Dieu donne et Dieu reprend. Non, ce n'était pas Dieu qui a repris. C'est qui a repris, la Bible nous dit? C'est le diable. Le diable a repris. Le diable a volé. Donc, ce qu'on comprend ici, on comprend, il disait toutes sortes de choses. Quand vous lisez le livre de Job, vous voyez un peu les raisonnements de Job. Malheureusement, il n'a pas toujours bien raisonné, il n'a pas toujours dit des bonnes choses. Heureusement, Job n'a jamais maudit Dieu. Heureusement. Donc, on peut tirer une leçon de sa vie à ce niveau-là. Même s'il ne comprenait pas toutes choses, au moins, il n'a pas maudit Dieu. Mais vers la fin de son histoire, on voit que Dieu lui dit, « Coudonc, est-ce que tu t'imagines être le nombril du monde, finalement? » Est-ce que tu penses connaître toutes choses, toi, Job? Tu n'as pas compris, Job, il y avait des choses en opération dans ta vie. Tu ne sais pas, mais le diable avait accès à ta vie. Mais vous voyez, des fois, on aimerait ça que Dieu nous dise toutes choses comme ça. On aimerait que Dieu nous explique tous les détails, toujours. Mais il faut croire que Dieu est bon. Puis il y a des choses dans le monde invisible qu'on ne voit pas toujours. Bon, Myriam, vous connaissez Myriam dans la Bible? Bien, je ne prendrai pas le temps de lire tout ça parce que ça serait trop long. Mais vous savez que Myriam était là et puis elle a attaqué Moïse, son frère, en tant que le leader d'Israël, et s'est mise à critiquer contre lui. Et là, tout d'un coup, Myriam est devenue lépreuse. Elle a eu la lèpre. Wow! Et on lit le texte, on dit « Ah, mais c'est Dieu qui a fait ça. » Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y avait une cause pour cette lèpre-là? Est-ce qu'il y avait quelque chose? Oui, elle a semé dans le déshonneur en méprisant Moïse. Qu'est-ce qu'elle a récolté? Elle a récolté la lèpre. Et la lèpre, à l'époque, c'était la maladie, justement, qui amenait de la honte. C'était la récolte de la honte. Et puis, elle a été exclue du camp pendant 7 jours dans la honte. Mais Dieu était bon et Dieu a guéri quand même. Amen? Amen. Bon, on commence à comprendre des choses. Donc, il y a eu des semences semées, des récoltes, et puis les semences, vous voyez, quand c'était une semence dans la corruption, il y a eu de la corruption aussi en récolte. Quand il y a eu des semences dans le péché, on a vu une récolte. OK. Donc, on a vu la dixième plaie, Job, Myriam, l'apôtre Paul et son écharpe dans la chair, rapidement aussi, dans 2 Corinthiens chapitre 12. Est-ce qu'il y avait une cause, une raison pourquoi il avait cette écharpe dans la chair? Son écharpe dans la chair, comme on a déjà vu précédemment, c'était simplement un ange de Satan qui était envoyé pour l'attaquer. Mais en fait, il y avait une cause, il y avait une raison pourquoi l'apôtre Paul était attaqué. Parce que c'est un homme de Dieu qui avait reçu des révélations de Dieu et Satan voulait l'empêcher d'entrer dans sa destinée. Et Satan était toujours contre lui pour l'empêcher dans son ministère. Donc, il y avait une cause. Mais là, on sait que Paul, l'apôtre Paul, était là et puis il a demandé trois fois à Dieu, « Dieu, délivre-moi, délivre-moi. » Mais l'autorité avait été donnée déjà à l'Église. Et l'Église avait l'autorité sur les principautés, sur les démons. Donc, Dieu disait à l'apôtre Paul, « C'est à toi, ma grâce, ma faveur est suffisante pour toi. Tu peux avoir la victoire, Paul, sur toutes ces choses-là. » Amen. Si vous êtes là et vous dites, « Ah, ça fait que l'écharpe dans la chair, ce n'est pas une maladie. » Non, c'est une personnalité. On sait que c'est un démon, un ange de Satan, comme nous lisons dans le texte. Et dans Nombre 33, verset 55, ça nous parle des épines dans les yeux ou des aiguillons dans vos côtés. Josué 23, 13, nous parle encore aussi de ces attaques-là. En fait, c'est des personnalités, des esprits méchants qui viennent. Donc, on voit ici plusieurs choses. Donc, soyons clairs, Satan est le méchant. Après toutes ces choses-là que je viens de vous expliquer aujourd'hui, si vous êtes là et vous dites « OK », donc on peut lire l'Ancien Testament et comprendre que certains verbes qui semblent indiquer que Dieu était l'auteur, mais en fait, c'est que Dieu permettait certaines choses, il permettait à une récolte concernant ces semences qui avaient été semées. Il permettait à cette récolte. Mais aujourd'hui, on n'est pas obligé de marcher dans la récolte du péché. Amen. On peut marcher dans la récolte des semences semées dans l'Esprit. Amen. Donc, on va semer dans l'Esprit et on va récolter de l'Esprit la vie. Amen. C'était super important qu'on parle de ces passages-là parce qu'on peut prêcher constamment sur les versets de guérison. On peut vous enseigner le cœur de Dieu, vous montrer verset après verset comment Jésus guérissait tous les malades, comment Jésus était bon, il allait de lieu en lieu. Mais si en arrière de vos pensées, vous êtes là et vous dites « Oui, mais dans l'Ancien Testament, Dieu était méchant. » Non, Dieu n'était pas méchant. Dieu permettait une récolte de ses semences. Il permettait des choses. Mais quand vous comprenez ça, vous faites réconcilier avec votre Dieu de l'Ancien Testament et dire, Dieu n'a pas changé. Dieu est le même Dieu. Et les lois spirituelles sont encore là. Donc, si je comprends qu'il y a des lois spirituelles, ce que je veux faire, c'est semer dans un bon terrain pour ma vie. Comprenez-vous? Je veux semer dans un bon terrain pour récolter la vie de Dieu. C'est tellement merveilleux, c'est libérateur. Là, on peut toujours garder nos lunettes du psaume 145, verset 8. « Tu es toujours bon. » Et puis, quand je lis mon Ancien Testament, je comprends qu'il y a des choses qu'on doit, éclairer et puis donner des éclaircissements justement pour comprendre des choses. Parce que la Bible nous dit, on a vu il y a plusieurs semaines aussi, qu'on peut tordre les Écritures si on ne prend pas le temps d'examiner des passages qui sont difficiles. Et plusieurs personnes ne veulent pas examiner des passages plus difficiles parce qu'ils disent « je vais laisser ça aux théologiens ». Mais vous savez, si on n'examine pas en Église comme on vient de faire aujourd'hui, juste certains passages, bien, on passe à côté et on peut se faire voler. Mais aujourd'hui, vous faites être plus établi dans la parole et être convaincu et dire « mon Dieu est bon ». Mon Dieu est bon et Dieu a toujours laissé une porte de sortie. Si les Égyptiens voulaient mettre du sang sur les linteaux de leur porte, ils étaient protégés aussi et Dieu empêcherait le destructeur de venir. Dieu est un bon Dieu et Dieu veut toujours nous protéger du destructeur. Mais si on est tout à fait comme convaincu, non, je le veux le destructeur, bien là, Dieu, qui est souverain, il nous donne l'autorité d'accepter ce qu'on veut. Dieu permet ce que nous permettons. Amen. Amen. OK. Il y a d'autres choses qu'on peut voir aussi. Si on lit le Nouveau Testament, on peut voir aussi, là, on voit plus de... ça devient de plus en plus évident maintenant, c'est qui le méchant. OK? Dieu nous montre dans le Nouveau Testament ce qui se passait en arrière-plan dans l'Ancien Testament et dans l'invisible. Dans Luc 22, versets 31 et 32, donc Luc 22, 31-32, Ici, on voit dans la version King James française, c'est dit « Le Seigneur, Jésus a dit à Simon, « Simon, Simon, voici Satan a désiré t'avoir afin de te passer au crible comme le blé. » Finalement, Jésus dit à Simon, « Écoute, Satan a demandé, voulait t'avoir. Il a désiré t'avoir pour te cribler, pour t'écraser. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. » Jésus a dit, « Mais j'ai prié pour toi, Simon-Pierre. J'ai prié pour toi. Satan t'avait réclamé, il voulait t'écraser, te détruire. Mais j'ai prié pour toi. J'ai prié afin que ta foi ne défaille point. Faut que tu demeures dans la foi, mon Pierre. » C'est ça que Jésus a fait. Voyez-vous la différence, là? Voyez-vous comment Jésus était bon? Satan voulait détruire Pierre, mais Jésus a prié pour lui. C'est encore le même Jésus aujourd'hui. Amen. Dans 1 Corinthiens 5, 5, un autre texte super important. 1 Corinthiens 5, 5. Je veux ici, maintenant, vous montrer qui est le coupable. Qui est le coupable? On connaît cette histoire. Il y avait dans l'Église primitive un homme qui couchait avec la mère de son père. La Bible dit, c'est un péché ça. Dieu a déclaré, il a jugé, ça c'est un péché. Bon, est-ce que j'ai bien dit? Ah, la femme, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit l'autre chose? Ah, la mère. Ah, la femme, ouais, c'est ça, ça serait encore pire. Mais donc, il y a un homme dans l'Église, OK? Son père, il y a un homme, et puis il y a un père, et ce père-là a une femme, et puis le fils couchait avec la femme de son père. Ça fait du sens? Vous me suivez? Dieu a jugé que ça, c'est un péché. Comprenez? Le juste juge de toute la terre déclare ça, c'est un péché. Bon, mais qu'est-ce qui se passe? L'apôtre Paul, il dit dans 1 Corinthiens 5, 5, qu'un tel homme, un incestueux, soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Remarquez, là, l'apôtre Paul a prié, ou il a déclaré plutôt, qu'un tel homme, cet homme-là qui couche avec la femme de son père, qu'il soit livré à Satan. Pourquoi? Arrêtons de prier pour lui, là, en ce moment. On va l'abandonner entre les mains de Satan. Pourquoi? Pour la destruction de la chair. Mais qu'est-ce qui se passe quand la chair est détruite? On tombe malade. On va arrêter de prier pour lui. On le laisse entre les mains du diable. Qu'il récolte ce qu'il est en train de semer, finalement, ça qu'il est en train de dire. Afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Donc, en espérant qu'il se repentira afin d'être sauvé au jour du Seigneur. Parce que c'est mieux si la personne s'éloigne de Dieu, commet des gros péchés comme ça. On laisse finalement récolter ce qu'il a semé. Peut-être s'il vit la récolte, il va se repentir puis se tourner vers Dieu. C'est ça que ça dit. Voyez-vous? Mais ce qu'on doit comprendre, ça ne dit pas qu'un tel homme soit livré à Dieu pour que Dieu le détruise. Toujours, 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 on voit, c'est le diable qui détruit. Remarquez qu'un tel homme soit livré à Satan pour qu'il récolte. Parce que Satan, son camp, c'est les ténèbres, la noirceur, la mort. Le camp du diable, c'est terrible. Le camp de Dieu, c'est la vie. Au ciel, comme je vous ai dit, il n'y en a pas de cancer. Dieu ne peut pas vous donner de cancer parce qu'il ne l'a pas au ciel. Il ne l'a pas. Il ne l'a pas en lui. Dieu est juste dans la lumière, dans la vie, le principe de la vie. Vous pouvez semer et récolter dans la vie. Dieu, c'est un Dieu de vie, de puissance, de délivrance. Notre Dieu est bon. Pourquoi c'est important qu'on prenne une réunion comme ça pour expliquer des choses? Pourquoi? C'est parce que les gens se sont spécialisés à prendre les versets de l'Ancien Testament qui semblent indiquer une chose, et puis on prêche juste ça dans nos églises. Mais pourtant, on lit toute la Bible, le Nouveau Testament constamment, ça nous parle comment Dieu est bon et comment Dieu veut guérir et restaurer. Et on ne parle pas des lois, des semences et des récoltes. On met de côté des vérités essentielles pour bien interpréter la parole de Dieu. On ne parle pas des verbes dans l'hébreu non plus. Ça fait que finalement, les gens sont tout mélangés et on prêche constamment que Dieu est là avec son bat de baseball, puis fais attention si tu fais quelque chose de pas correct, là, pow! Il va te casser la jambe, là. C'est le Dieu de la religion. Mais là, on dit, OK, on a pris le temps. Il faut prendre le temps des fois. On peut avoir une prédication et je peux juste vous dire, Jésus guérit, hallelujah! Mais si vous n'êtes pas fondé dans les Écritures, si vous n'avez pas des fondements, et quelqu'un arrive et dit, ouais, Dieu guérit, mais des fois, il rend malade, regarde l'apôtre Paul, malade comme un chien. Puis il a supplié Dieu trois fois, puis Dieu a dit, non, tu vas endurer mon Paul. Là, vous êtes là, vous n'avez pas de... Ah, c'est vrai, là. Mais si vous êtes fondé, là, vous savez, non, mon Dieu est bon. L'apôtre Paul, ce n'était pas une maladie, de toute façon, c'est un démon. Et Dieu a dit, ah ouais, tu as la victoire, mon Paul. C'est ça qu'il a dit, plutôt. Amen. Là, vous êtes établi, et là, vous voyez quelqu'un de malade sur la rue. et vous dites, vous ne pensez pas, est-ce que je devrais prier pour lui ou non? Peut-être que c'est Dieu qui est en train de le rendre malade pour l'enseigner. Vous ne pensez pas à ces choses-là. Vous savez, Jésus allait de lieu en lieu. Et moi, je m'en vais de Walmart à Kmart, à tout ce que je veux. Et je vais aller prier pour les malades et guérir. Amen. Je vais faire comme mon Jésus. Là, je n'ai plus d'hésitation dans ma tête côté doctrine des hommes, les traditions qui m'ont siphonné ma foi. Je le sais que mon Dieu est bon et que Dieu veut toujours qu'on soit guéri. Parce qu'il guérit toutes. Non, il pardonne toutes mes... Il pardonne toutes mes iniquités, il guérit toutes mes maladies. C'est écrit, c'est ce que je crois. Faut vraiment, des fois, faut s'arrêter, frère et soeur, et faire une école de guérison. Et faire un grand lavage. On passe le tapis, on lave le tapis qui a été piétiné par le diable. C'est un beau tapis blanc, pur. Notre Dieu, c'est un bon Dieu. Dieu est bon et Dieu guérit. Amen. Hallelujah. Donc, ne soyez pas livrés à Satan, marchez dans le bon chemin, marchez dans le chemin de Dieu, et vous ne serez pas livrés à Satan. Hallelujah. Amen. On a toujours le choix. On peut semer dans l'esprit et récolter de l'esprit la vie. Amen. Hallelujah. OK. La bonne nouvelle. Êtes-vous prêts? Là? Je termine avec une bonne nouvelle pour vous. Vous avez l'autorité aujourd'hui de semer ce que vous voulez récolter dans votre vie. Hallelujah. Ce que vous récoltez aujourd'hui dans votre vie, c'est la semence des choses que vous avez semées dans votre passé. Donc, si je récolte l'amour aujourd'hui, la joie, la paix, à quelque part, j'ai semé quelque chose. Et Dieu, c'est gratuit. Dieu me donne toutes ces choses-là. Mais dans ma vie, ce que je veux faire, je veux récolter de l'amour. Amen? Amen. Voulez-vous récolter de l'amour? Bien, aimez les gens. Amen? Je ne sais pas ce que vous voulez récolter. Si vous voulez récolter des carottes, devinez ce que vous devriez semer. Semez des carottes. Amen? Si vous voulez récolter de l'argent, semez de l'argent. Si vous voulez récolter de la santé, peut-être commencez à semer des prières de guérison. Semer dans l'onction. Hallelujah! OK. Donc, nous pouvons semer selon la récolte que nous voulons récolter. Hallelujah! Une des choses, la première chose qu'on établit dans l'école de guérison, et c'est notre dernière aujourd'hui, gloire à Dieu, la première chose qu'on établit, on doit semer dans l'amour, on doit marcher dans l'amour. Ceci dit, on doit aimer tout le monde parce que la foi est opérante par l'amour. Vous vous rappelez de ça? La foi est opérante par l'amour. Bon, venez avec moi dans Proverbe 10. Il me reste quelques minutes. Ne pensez pas trop à votre poutine. Gardez vos pensées captives à l'obéissance de Christ. La fin va vous aider pour votre vie pratique. Okay? Proverbe 10, verset 12, dans français courant, ça nous dit la haine, quelqu'un qui haït les gens, là, ou qui hait pour ceux en France. Je pense à Annabelle. Ou pour les Québécois, ceux qui vont haïr, là, ou qui haït. OK. Proverbe 10, 12. La haine suscite des querelles ou provoque des disputes, selon Bible, parole de vie. Donc, c'est la haine qui provoque des disputes, des querelles. Mais l'amour ne tient pas compte des offenses. Dans parole de vie, celle qui aime pardonne toutes les fautes. Donc, vous pouvez dire, moi, ce que je veux faire dans ma vie, je veux semer dans l'amour pour récolter de l'amour. Donc, marcher dans l'amour et pardonner rapidement. Marchez dans l'amour et pardonnez. Si vous marchez toujours dans l'amour, vous êtes en train de semer dans l'esprit et vous allez récolter de l'esprit la vie. Amen. Mais si, admettons, votre père vous a fait quelque chose, ou votre mère, et puis vous êtes rempli de haine, vous êtes rempli d'offense parce que vous avez vécu des choses, peut-être même votre père ou votre mère, sont décédés aujourd'hui, vous ne pouvez même pas être réconcilié avec eux, dans le sens de leur dire, je vous pardonne, mais vous pouvez pardonner aujourd'hui, être libéré de ces choses-là. Parce que tant et longtemps que vous gardez des choses comme ça dans votre cœur, de l'offense, la haine, ça va vous tuer. La haine tue, frères et sœurs. La haine vient du royaume des ténèbres. Mais si vous décidez aujourd'hui, je vais marcher dans l'amour, c'est une clé hyper importante, ça. Dans toute l'école de guérison, si on passe à côté ce sujet-là de l'amour, on passe à côté de la guérison. Donc, on doit dire, Seigneur, je dois pardonner. Je dois pardonner celui qui m'a maltraité. Je dois pardonner telle personne, peu importe. Et je dois aimer, choisir. Je dois aimer absolument. Amen? Parce que la haine suscite des querelles. Mais l'amour ne tient pas compte des offenses. Donc, vous pardonnez et vous oubliez. Tant que ça soit possible, en tout cas. Donc, marchez dans l'amour et pardonnez. Et soyez sages et obéissez Dieu. Tout simplement, obéissez ce que Dieu vous dit. Venez avec moi dans Proverbe 27, verset 12. Proverbe 27 et le verset 12. Là, dans cette école de guérison, je vous encourage à réécouter les choses pour vraiment être enraciné dans cette parole. Comme ça, vous allez vraiment être bâti dans votre foi pour la guérison et pour la santé divine. Amen. Là, vous avez été avisé. Vous connaissez ces choses-là. Il n'y a plus de raison d'ignorer ces vérités-là parce que vous avez été enseigné. Amen. Vous l'avez, l'enseignement-là. Là, ça nous dit, dans Proverbe 27, verset 12, dans la Bible du Sommeur, « L'homme avisé voit venir le malheur et se met à l'abri. Le stupide poursuit son chemin et en subira les conséquences. » Donc, l'homme avisé ou le stupide? Qui êtes-vous, frères et sœurs? Avisé. Bonne réponse. L'homme avisé voit venir le malheur. Admettons, on déclare à Granby, admettons, dans cette région, il y a une grippe, là, une grippe, je ne sais pas trop comment ils appelaient ça, H1N1, des choses terribles qui arrivent. Ça arrive, tout le monde va mourir, et puis chaque personne ici, je ne sais pas. Vous entendez quelque chose comme ça. Mais là, l'homme avisé voit venir le malheur et se met à l'abri. Qui est notre abri? Christ. Là, je vais dire, j'ai le psaume 91. Hallelujah! Le psaume 91 et le psaume 103. Et puis là, je commence à déclarer par ses meurtrisseurs, j'ai été guéri. Hallelujah! Je me mets à l'abri. Hallelujah! Mais le stupide, lui, il fait autre chose. Le stupide poursuit son chemin, mais avec la foule. Là. La foule, il y a quelque chose de terrible qui arrive. Il poursuit son chemin avec les autres stupides et il subira des conséquences. Mais si on dit, non, moi, je ne fais pas partie de la gang des stupides, là. Je fais partie de ceux avisés. Dieu m'a avisé, Dieu m'a enseigné. Et Dieu m'a dit qu'il y avait des meilleures choses en réserve pour ma vie. Et puis je sais, ça, c'est pas pour moi. La destruction, ce n'est pas pour moi. Le destructeur, ce qu'il veut faire dans ma vie, ce n'est pas pour moi. Parce que Dieu me protège. Hallelujah! Donc, et remarquez, Proverbe 19, verset 29. C'est l'avant-dernier verset, après vous allez dans la joie. Hallelujah! Proverbe 19, 29, ça dit, les châtiments sont pour les moqueurs, donc, les châtiments, ce n'est pas toujours très, très agréable. Et les coups pour le dos des insensés. Bon, OK, ça nous parle juste d'une chose assez importante. Le châtiment, c'est pour les moqueurs. Et les coups pour le dos des insensés. Êtes-vous des insensés? Non. Dans 1 Pierre 2, 24, vous voyez qui a porté le péché, qui a porté la conséquence, en fait, la punition pour votre stupidité. C'est Christ. Un Pierre, 2, 24, c'est-à-dire lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Christ a porté. Mais moi, ce que je trouve remarquable, c'est-à-dire le châtiment sont prêts pour les moqueurs et les coups pour le dos des insensés. C'est ça que le diable veut faire. Il veut vous mettre des coups dans le dos. Il veut vous détruire. Mais Christ a déjà tout porté pour vous à la croix. Christ a déjà tout porté à la croix. Donc, gloire à Dieu, aujourd'hui, je n'ai aucune raison de douter dans la bonté de mon Dieu. Là, vous allez continuer à lire votre Bible et vous allez lire des passages dans l'Ancien Testament et des fois, vous allez être peut-être troublé, mais vous pourrez vous rappeler. Je me souviens, un jour, mon pasteur m'a dit qu'il y avait des détails, des fois, qu'on ne comprend pas toujours dans le même passage. Si ça me dérange vraiment, je vais prendre du temps et je vais commencer à étudier ce passage-là. On l'a fait aujourd'hui avec un passage dans l'Ancien Testament concernant la dixième plaie. Et puis là, on voyait au début, on dirait Dieu, c'est un gros méchant. Mais après, on a réalisé, finalement, c'est le Pharaon qui était méchant, qui était aussi inspiré par des démons, sûrement. Et puis, on réalise finalement, Dieu, c'est celui qui voulait protéger les nouveaux-nés. Ça réveille toutes les choses d'une autre façon de voir les choses, n'est-ce pas? Voyez-vous comment Dieu est bon? Ne croyez jamais des rapports que votre Dieu est méchant. Mais votre Dieu est bon. On va terminer avec un verset, le psaume 145, et le verset 8, on va vraiment enregistrer ça dans nos cœurs. Et puis, je peux vous dire, si vous êtes vraiment déterminé, vous voulez vraiment marcher dans la santé divine, vous voulez vraiment marcher dans votre héritage en Christ, c'est possible. C'est possible et aujourd'hui même, vous pouvez recevoir votre guérison. Aujourd'hui même, vous pouvez sortir de cette place totalement guéri parce que Jésus est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement, il n'a pas changé. Si Jésus voulait guérir dans le passé, il veut encore aujourd'hui. Amen. Hallelujah. Le psaume 145, verset 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère. Remarquez la dixième plaie, là, la pire. Là. La récolte, c'était jusqu'à la fin. La dixième, parce que Dieu est lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Les compassions de Dieu sont pour vous aujourd'hui. Et si on se juge nous-mêmes, on n'aura pas de jugement, hallelujah. On peut dire aujourd'hui, ah ben moi je suis loin de Dieu et puis je juge que je suis pécheur et puis je décide de me mettre aujourd'hui sous le sang du Seigneur Jésus, être purifié. Et vous savez, Dieu nous avertit tout au long de sa parole. Quand on lit la parole, ça nous dit plein de choses. Ça nous dit, allez pas dans le péché, vous allez récolter ceci. Allez pas, admettons, vous êtes une personne, vous êtes dans l'église, mais là vous dites, ben là j'ai le goût d'aller dans le monde me chercher un mari ou une marise. Non, une épouse. Admettons, vous êtes là, vous dites, ben là, je trouve personne de mon goût là, en ce moment, là, ici à vécu. Là. Je pense que je vais aller dans les bars, là, me trouver quelqu'un. Là. Puis la Bible, pourtant, vous dit, ne faites pas ça. La Bible nous dit, justement, n'allez pas dans le monde chercher quelqu'un pour votre propre vie, parce qu'il y a quelqu'un en réserve pour vous, dans les voies de Dieu. Donc, mais des fois, les gens font à leur tête. Et la Bible les appelle les stupides. Hein, vous voyez ça? Mais si vous êtes avisé, vous réaliserez que Dieu connaît toujours les choses mieux que vous. Et Dieu a toujours les meilleures intentions pour votre propre vie. Donc, l'obéissance, oh, je vous dis, c'est merveilleux. L'obéissance et la bénédiction vont ensemble. Amen. Et là, si vous avez dit, OK, ben, bon, si je suis malade, le pasteur Joel Spinks a prêché que c'était de ma faute. Il y en a qui vont peut-être dire ça. Le pasteur Joel Spinks a dit là, que là, si je suis malade, il y a toujours une cause, donc c'est de ma grosse faute, là, puis je suis un moins que rien. Je ne retourne plus dans cette église-là. Vous allez dire, ah, ben, la personne a vraiment bien compris. Hein? Non, ce n'est pas ça que j'ai enseigné. Il y a toujours une cause, mais ce n'est peut-être pas votre faute non plus. Là. Parce que le péché et la malédiction règnent dans le monde. La malédiction règne dans le monde, mais Dieu dit, mais obéissez-moi, moi je vais vous donner le chemin, je vais vous montrer le bon chemin. Suivez-moi et vous verrez la bénédiction. Suivez-moi. Et là vous dites, ah, oh, OK, je vais te suivre Jésus, je vais te faire confiance. Et là vous vous mettez à sa poursuite et là vous découvrez, oh, la maladie quitte votre vie, la pauvreté quitte votre vie, la dépression quitte votre vie. Voyez la gloire de Dieu qui descend sur vous, l'onction de Dieu, la joie, la délivrance, alléluia. C'est ça que Dieu en réserve pour vous. Alléluia, c'est ça que Dieu veut. Mais obéissez ce que Dieu vous dit. Obéissez et puis vous verrez que Dieu est bon, véritablement bon.
Alléluia, alléluia, merci pour la vie. Merci pour l'onction de vie. Oh, merci Seigneur Dieu pour l'onction, pour vivre. Alléluia, merci pour la vie de Dieu. Alléluia, merci pour la vie. Alléluia, merci Seigneur Dieu. Merci pour ta lumière qui chasse les ténèbres. La lumière qui chasse les ténèbres. Alléluia. Oh, merci Seigneur Dieu. Merci parce que tu nous révèles ton cœur. Merci parce que tu nous as révélé qui tu étais en Jésus. Tu nous as révélé qui tu étais. Alléluia. Et nous voyons la splendeur de ta gloire en Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Seigneur, je te remercie pour les gens sur Internet en ce moment qui reçoivent leur guérison. Merci pour les témoignages que nous recevons par la foi cette semaine, encore une fois. Au nom de Jésus, je vais prier si vous êtes à la maison et vous êtes dans une douleur. Maintenant, au nom de Jésus, je déclare que par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Au nom de Jésus. Alléluia. À la maison, sur Internet, à la radio, peut-être dans votre auto, vous conduisez votre auto et vous avez des douleurs. Maintenant, recevez au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu vient sur vous en conduisant votre auto et vous guérissez maintenant au nom de Jésus. Alléluia. À la télévision, peu importe la nation, vous retrouvez. Jésus est là avec vous. Et au nom de Jésus, la maladie vous quitte maintenant. Au nom de Jésus. Recevez son onction dans votre vie, dans votre corps maintenant. Alléluia. Et écrivez-nous également. Pour chaque personne, quand vous recevez, écrivez-nous à info@evqmedia.com. info@evqmedia.com. On va se réjouir avec vous. On aime ça entendre parler des gens qui avaient le cancer et qui sont guéris maintenant. Des gens qui étaient paralysés qui sont maintenant en pleine forme. On aime ça entendre ça et se réjouir avec vous. Amen. Gloire à Dieu. Père éternel, on te remercie pour ta bonté. On ne doutera plus jamais dans ta bonté, Seigneur Dieu. Et nous déclarons aujourd'hui sur chaque taille ton shalom. Rien de manquant, rien de brisé en Jésus. Amen. Soyez bénis. Amen. Et à bientôt. Amen.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.